une histoire particulière. L'été d'une histoire particulière sonne comme un déconfinement. Les événements culturels et sportifs ayant été soit annulés, soit reportés, il était donc normal qu'une histoire particulière mette le sport à l'honneur. Quelque part, je me dis que cela va tous nous faire du bien. Chaque dimanche, de 17h à 18h, je vous retrouve donc pour une histoire singulière liée au sport. Vous avez couru le 400 mètres dimanche dernier, chapeau, ça n'était pas simple. Celle dont nous allons parler aujourd'hui, car c'est une femme, possède un palmarès incroyable. Plus de 20 titres nationaux, une cinquantaine de médailles dans des épreuves nationales et internationales, tous sports confondus, plus de 150 rencontres d'athlétisme disputées, ainsi que 200 matchs de football officiels. Elle a pratiqué le lancer du poids, du javelot, du disque, participé à des courses automobiles, des courses cyclistes et même la traversée de Paris à la nage. Quelle femme, me direz-vous ? Aujourd'hui, Clémence Alézard et Christine Robert vous racontent l'histoire étonnamment moderne et un peu trouble de cette championne toute catégorie.
Moi, Violette Maurice, c'était quelqu'un qui ne m'intéressait pas du tout. J'avais un espèce de rejet de cette personnalité, de cette femme qui s'habillait en homme. Je ne savais pas encore qu'elle avait été accusée, à tort d'ailleurs, d'être une tortionnaire de la Gestapo qui prenait plaisir à torturer les femmes. Ça, c'est le schéma qui a été construit par Raymond Ruffin. Après, Violette Maurice a été accusée d'être la maîtresse d'Himmler, alors qu'elle était lesbienne. Mais c'est quand même étonnant que les gens aient cru ça.
On zoome sur un personnage, elle est tout à fait remarquable, elle est tout à fait romanesque, elle est tout à fait fictive, réelle, et tout à fait susceptible de devenir un personnage de fiction. C'est un ovni. Une espèce de personnage tout à fait identifié, tout à fait identifiable, parce qu'on peut le caractériser, on connaît son histoire, il y a des gens qui ont travaillé sur sa trajectoire. Elle ne se gardait pas de montrer qui elle était, ce qu'elle voulait, comment elle entendait le faire, avec beaucoup de caractère. Et les journalistes ne se privaient pas d'en parler, de s'en faire l'écho.
En 9 ans, Violette Maurice n'a subi qu'une seule défaite. Est-ce un garçon ou une fille ? Elle porte le costume masculin avec une telle aisance et depuis si longtemps que tous ceux qui la voient pour la première fois lui disent sans hésitation « monsieur ». Et il reste béant de stupéfaction quand de sa voix formidablement timbrée, elle rectifie « pardon, madame ».
Elle se prête formidablement bien à ce que l'on raconte sa vie avec ses hauts, ses bas, ses moments de notoriété, ses firmaments sportifs, ses affaires judiciaires, cette fin dont on ne sait pas exactement à quoi elle est due, règlement de compte, affaires amoureuses, etc., etc. Donc elle est là plein écran.
Nous l'avons vue l'autre jour au stade Pershing, toute vibrante de sa victoire. Oh, comme elle était heureuse.
Mais moi, je la trouve pas du tout représentative de ce que pouvaient être les sportifs dans l'entre-deux-guerres.
Vous devez être habitué à triompher dans le lancement du poids. Depuis combien de temps concourez-vous ? Un coup de clairon ? Depuis 1917, mon vieux. Et je n'ai été battu depuis 9 ans qu'une seule fois en 1922 par une diablesse d'américaine qui lança à 30 cm plus loin. L'intransigeant, 21 octobre 1926, Henri Musnick.
Le cas Violette Maurice. Un documentaire de Clémence Alézard et Christine Robert.
Raymond Ruffin a prétendu qu'elle avait vendu les plans de la ligne Maginot aux Allemands. Vous vous rendez compte ? Mais comment elle pouvait accéder au plan de la ligne Maginot ? Mais c'est démentiel. Et pareil aussi pour les Jeux Olympiques de 1936. C'est à ces Jeux Olympiques qu'elle aurait été approchée par les nazis qui lui auraient demandé de travailler pour les Allemands. Or, moi j'ai fait des recherches, et notamment avec une historienne allemande du sport féminin, et je lui ai demandé si elle trouvait le nom de Violette Maurice parmi les invités officiels d'Hitler. parce que c'est ce qui a été écrit dans le livre. Or, elle m'a dit que d'abord, Hitler n'avait pas d'invité officiel et qu'elle a recherché dans toutes les archives et le nom de Violette Maurice n'apparaît nulle part. Mais je sais, moi, par le biais de la famille d'une de ses copines, Margot Patouillet, qu'elle est allée aux Jeux Olympiques de Berlin, mais qu'elle y est allée en tant que sportive et qu'elle était même enchantée. Mais c'est tout, elle est allée aux Jeux Olympiques, point final.
La vie de Violette Maurice se prête volontiers au mythe. Ce que l'on croit savoir, c'est qu'elle est la hyène de la Gestapo, une diablesse, tortionnaire sans scrupule de ses semblables, selon les mots de l'écrivain Raymond Ruffin. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est née en 1893 à Paris, dans une famille de militaires. Qu'elle sera tour à tour estafette à Verdun pendant la Grande Guerre, brillante athlète complète, artiste lyrique, amie du tout Paris anticonformiste et collabo. Émancipée, elle défie avec brio le sexe dit fort. Elle défie la morale et la loi dite naturelle. Ouvertement lesbienne, ses propos sont hardis et son habit, dès 1919, masculin. Déjà remarquée et remarquable nageuse, elle a 24 ans quand elle établit deux records mondiaux en lancer de poids et de javelot lors des premiers championnats de France d'athlétisme féminin. Qui s'intéresse aux championnes au XXe siècle, aux garçonnes des années folles, aux cabarets des années 30 ou au rôle des femmes dans la collaboration, croise le chemin de Violette Maurice. On la croise. On s'attarde peut-être un instant. Et on détourne le regard, souvent. Ni idéal ni emblème, à la regarder de trop près, on craint de déformer. Car elle est tout à la fois résolument inscrite dans les époques qu'elle traverse et tout à fait en dehors. Personnage hyperbole. La pensée bute sur le cas Maurice. Elle inquiète. On se méfie. Elle brouille les genres et les fantasmes brouillent les pistes.
Alors ça, c'est la fameuse photo de l'équipe de football. Ici, donc, il y a Violette et Margot. Elle est là, Margot, voilà.
Margot Patouillet. Marie-Jo Bonnet, historienne.
Et là, c'est dans la voiture quand elle a gagné le bol d'or.
Un solide gaillard. Mademoiselle Violette Maurice vient de gagner le bol d'or. Elle a terminé en tête, battant 18 hommes qui savent tous conduire et couvert 1700 kilomètres entre un soir et le lendemain. Des jeunes femmes autour de nous exultaient. « Hein, disaient-elles, les femmes, quand elles veulent. » Nous savons depuis longtemps que les femmes sont capables d'énergie, de sang-froid, d'endurance et de patience. Elles en ont donné bien des preuves durant la guerre. Mais nous dédierons, avec un sourire de compassion, un portrait de Mademoiselle Violette Maurice aux ignorants qui se demandent encore quel est le véritable sexe fort.
On la voit dans une voiture, le regard vaguement patibulaire, le clope au bec.
Philippe Tétard, historien du sport.
Dans un blouson qui est absolument pas féminin.
Là, à ce moment-là, je crois qu'elle vient de remporter le bol d'or en 1927 et tous ses concurrents étaient des hommes.
Bah, bien fait pour eux.
Rien ne l'effrayait.
Il y a 2 ans, nous traversions les Landes pendant Paris, les Pyrénées-Paris. Et nous buvions stoïquement l'orage venu à notre rencontre. Soudain, en plein désert, là où les marécages gris et la plaine infinie succèdent aux doubles rideaux de pins mélancoliques, nous entendîmes le coup de sifflet aigu du coureur qui veut passer. Un bolide rouge nous frôla. Au volant, un rude gaillard qui avait enfoncé son mouchoir dans son col et qui filait, cheveux au vent, sous l'averse. C'était Mademoiselle Violette Maurice. Le Figaro, 9 juin 1927, Hervé Lovic.
Celle-ci, elle est intéressante aussi, cette photo, parce qu'on voit Violette Maurice
en train de boxer un homme. D'ailleurs, qui avait la même taille qu'elle, hein. C'est intéressant quand même, parce que c'était une grande femme. Hein. Là, elle est très mince, hein. Vous avez vu un peu.
On est en 1913, elle a 20 ans.
Ouais.
C'est aussi une cycliste, une coureuse à pied, elle joue au water polo.
Elle fait du vélo, elle fait de la boxe, elle fait de la natation, elle fait du javelot, du lancer du poids, du football. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Vous voyez, donc elle est omnisport. C'est vraiment la plus grande championne que la France ait connue. Hein, il faut le dire quand même. Hein.
cette photo-là aussi.
Elle est pas mal, hein.
Elle est face à son miroir en train de mettre sa cravate. Et autour du miroir, c'est aussi plein de photos d'elle.
Ouais, ou de sa famille, ou de ses amantes. Ça, malheureusement, j'ai pas pu. C'était pas assez précis pour le voir. Oui, elle est devant une glace en train de mettre sa cravate. Elle était toujours très bien soignée, hein. Chemise en soie, pantalon de flanelle et tout ça. Enfin, cheveux coupés, au cordeau et tout ça, hein.
Violette Maurice, c'est pas ce pantalon ordinaire des sportives qu'elle porte.
Christine Barr, historienne des féminismes.
Elle masculinise totalement son allure avec une cravate, avec une allure sportive parfois, ou une allure plus chic, avec des cheveux très courts, gominés, avec la cigarette. On lui reproche aussi sa vulgarité. Elle ne s'habille pas seulement d'une manière masculine, on dit qu'elle a un comportement général qui est masculin et qu'elle parle comme un homme.
Elle avait un corps très bien fait, un physique vraiment bien, bien constitué. Et donc, elle a pu s'appuyer sur son corps pour conquérir sa liberté. C'est même pas une liberté de citoyenne, parce que elle était pas du tout dans les combats féministes pour les droits de vote et tout ça. Elle était pas féministe, mais elle a montré qu'une femme était capable, aussi capable que les autres.
C'est sa devise, d'ailleurs.
Ce qu'un homme peut faire, Violette peut le faire, oui. Et c'est dans ce sens-là qu'elle est très moderne. Ça, c'est au moment où on s'habillait en femme, avec son chapeau sur la tête, à Paris, tout au début, quand elle a commencé à conduire. C'est son mari qui lui a appris à conduire.
Cyprien Gouraud, son
Gouraud,
mari.
Ouais. Cyprien Gouraud, la guerre de 14, il était aviateur.
Comment on explique justement que Violette Maurice, elle se soit mariée à cet homme, Cyprien Gouraud, en 1914, donc à 21 ans?
Moi, à mon avis, c'est pour faire plaisir à sa famille. Parce que les Gouraud, c'est aussi des militaires. Hein. C'est un mariage arrangé, très probablement, parce qu'elle était déjà lesbienne à cette époque-là. D'ailleurs, ça n'a pas marché, leur couple. Hein. Ils ont divorcé en 1923.
Une Amazone au XXe siècle où l'audace réfléchit d'un chirurgien moderne. Si la sagesse des nations avait prévu le cas de Madame Violette Maurice, elle n'aurait jamais rendu la sentence proverbiale « abondance de biens ne nuit pas ». Car Madame Maurice souffrait d'une exubérance pectorale. Madame Maurice, que ses occupations obligent à des déplacements incessants au volant de sa voiture, en fut réduite à comprimer sa gorge par des moyens orthopédiques et douloureux. Si douloureux que ses muscles thoraciques en étaient atrophiés. Madame Maurice fit appel à un chirurgien. Ami d'enfance de la championne, le docteur C, audacieux et savant, pratiqua en 45 minutes d'opération une incision esthétique. Que vont dire les hygiénistes? Tout est cas d'espèce. Le chirurgien en question, ancien élève du professeur Pinard, n'a opéré qu'à bon escient et n'aurait jamais consenti à sacrifier à une question de mode, ainsi qu'on l'a dit, la nécessité nationale de l'allaitement maternel.
Elle le fait, elle l'affiche, on en parle. Ça, c'est la transgression ultime, quoi, parce que c'est la négation de la maternité, hein, l'impossibilité de nourrir. Donc ça, c'est terrible comme image. Ça renvoie à la question de la reproduction, ça renvoie très profondément à la question des normes et de la place de la femme dans la société. Oui, c'est un acte de mort. Quoi.
Jadis, les Amazones se brûlaient le sein droit pour mieux tirer à l'arc. Aujourd'hui, nos chirurgiens ont d'autres cordes aux leurs, à l'usage, entre autres, des sportives ferventes. Madame Maurice en est une preuve. Mais elle n'en conserve pas moins la primeur, à une époque où tant de choses augmentent. d'avoir donné l'exemple spontané d'une réduction appréciable. Le Petit Journal, 1929, MJ.
Il y a vraiment dans les années folles cette crainte que les femmes suppriment leur poitrine. D'ailleurs, certaines le font dans les années 20 parce que c'est la mode et que désormais, ça, y a une offre médicale, c'est possible de le faire. On parle de plus en plus de chirurgie esthétique. Alors, c'est plutôt dans un but esthétique pour réduire la poitrine. Violette Maurice le fait pas à des fins esthétiques. Elle dit qu'elle le fait pour conduire plus facilement son bolide. Apparemment, son opération a été médiatisée. Elle n'a pas cherché à le cacher parce que elle et donc une partie de l'opinion aussi n'y voit pas de problème particulier. Et puis parce que dans les années 20, il y a quand même cette mode très saisissante de la poitrine plate. Beaucoup de femmes se bandent la poitrine pour faire disparaître totalement leur poitrine et se fabriquer comme ça un corps de mode un peu ambigu et un peu androgyne, un peu adolescent. Et les femmes plus âgées comme Colette ont beaucoup critiqué cette mode qui bannit les rondeurs de maternité, de quelque chose qui relevait d'une sorte d'éternel féminin qui paraît menacé dans l'après-guerre. Donc ça apparaît comme un symptôme inquiétant d'une crise de la civilisation, voire d'une perspective de fin de l'humanité, de fin de l'hétérosexualité, de fin de la reproduction. On se dit mais les hommes ne seront plus séduits par les femmes. Pourquoi les femmes veulent-elles ressembler à de jeunes adolescents? Dans les défilés de mode, on ne reconnaît plus les hommes et les femmes. Il y a cette crainte de l'indistinction des sexes et donc de l'homosexualité aussi qui devient possible à la faveur de cette indistinction des sexes. Voilà, donc tout un ensemble de peurs, mais en même temps, c'est ça qu'il faut comprendre, il y a à la fois un côté légitime parce que c'est la mode des années 20 et c'est la première fois que l'homosexualité devient une valeur de mode inspiratrice pour la mode, donc c'est un moment assez inouï. Mais en même temps, ça crée des peurs. Il y a tout un discours très exagérant beaucoup, d'ailleurs, l'ampleur de ces changements-là, qui se construit un discours anti-féministe, homophobe, qui va se développer et mûrir au cours des années 20 et exploser dans les années 30 et 40.
Violette Maurice dérange les institutions sportives. Elle conteste les décisions des arbitres, exige le remboursement de ses frais lors des déplacements internationaux, aurait des comportements inappropriés dans les vestiaires. En 1928, la fédération lui retire sa licence. Violette Maurice les attaque pour refus arbitraire de délivrance pour l'avenir de toute licence dans un but de vexation et demande 10 000 francs de dommages et intérêts.
Si vous voulez, c'est une femme qui était acculée dans une impasse à cause de son histoire personnelle. Elle a fait un procès et elle a perdu son procès.
Le pantalon de Madame Violette Maurice devant les juges. Un pantalon de drap bleu marine surmonté d'un veston au col et aux manches duquel apparaissait la plus élégamment virile des chemises de soie, pochette, stylo vert vif, une trace de tabac à ses doigts bagués, un bon sourire sur son visage à cheveux plats. Telle était hier Madame Violette Maurice, championne en tout sport et Amazone connue, qui se fit couper naguère un sein, non pour tirer à l'arc, mais pour mieux conduire son auto, écrit un journaliste dans Le Petit Journal le 27 février 1930. C'est toute une affaire. D'abord, ça dure longtemps, ça mobilise les médias pendant un mois à peu près, et les titres qui reviennent le plus, c'est le procès du pantalon. En fait, on aurait dû dire le procès de la Fédération féminine sportive de France, puisque c'est Violette Maurice qui porte plainte, et ça devient le procès du pantalon et le procès de Violette Maurice.
on parle d'un procès pittoresque. Et c'est souvent un adjectif qu'on retrouve à propos de l'ordonnance de 1800 qui interdit aux femmes de s'habiller en homme. À partir de la fin du 19e siècle et jusqu'au début du 21e siècle, on a tendance à voir cette question-là comme une question un peu anecdotique, un peu pittoresque, alors qu'en réalité, les enjeux sont très importants en termes de liberté des femmes. Peut-être pour se masquer, justement, pour masquer les véritables enjeux politiques, hein, on diminue la portée du procès en faisant simplement quelque chose de pittoresque.
Parce que la défense de Violette Maurice, c'est simplement que cet habit-là, cette tenue-là, elle est pratique, elle est saillante, je crois qu'il y a quand même ce mot-là, mais elle est surtout pratique et décente.
Décente, oui, le mot décent revient. Et puis patriotique aussi, parce que elle a tout un storytelling. Elle explique, et son avocat explique, qu'elle a commencé à s'habiller en homme pendant la Première Guerre mondiale. Donc mettre en avant les bons et loyaux services patriotiques, c'est de bonne guerre, si j'ose dire. Mais bon, ça ne va pas suffire, parce que à travers ce procès, c'est aussi le procès d'une femme aux mœurs douteuses. Alors on emploie beaucoup de périphrases, il se dit qu'elle est lesbienne, qu'elle a un comportement inapproprié avec les jeunes filles dans les vestiaires, le fait qu'elle s'habille de manière très masculine semble corroborer aussi le fait qu'elle est lesbienne, puisque c'est de cette manière-là qu'on se représente les lesbiennes, d'une manière virile, hein, avec l'idée qu'il y a une inversion du genre chez les lesbiennes, une âme virile enfermée dans un corps de femme. Donc voilà, ça n'est jamais dit franchement, mais c'est quand même un des dangers qu'il faut conjurer. Donc c'est aussi un procès exemplaire, hein, pour réfléchir quand même à l'homophobie et la lesbophobie dans ces années-là.
Attendu qu'il apparaît évident que la dame Maurice croit s'être acquis dans ses rapports avec le conseil de la FFSF, par ses titres de guerre, ses victoires sportives, ses relations, sa notoriété relative, des droits à la liberté la plus absolue de conduite, de langage et d'habillement, attendu que plus spécialement sur ce dernier
point. Oui, donc ça c'est une longue c'est la citation des attendus du procès. L'argument de son avocat, c'est vraiment la modernité de son attitude, le fait que c'est tout à fait conforme à l'évolution des mœurs, qu'elle est certes un peu en avance, hein, c'est une pionnière dans cette évolution, et puis qu'elle est d'une certaine manière à l'avant-garde du féminisme.
Le tribunal n'a pas à rechercher si la dame Violette Maurice, qui dans la vie civile revêt constamment le costume masculin, a ou non le droit au port de ce costume, mais si sa présence dans les locaux de la fédération, au milieu des jeunes sportives, sous l'habillement que les usages n'ont jamais accepté, est compatible avec le but poursuivi par la fédération. Attendu que ce but a été nettement...
Donc l'avocat de Violette Maurice a finalement des arguments féministes, et en face on a Yvonne Netter qui est une féministe, une figure du féminisme de l'entre-deux-guerres, qui finalement elle va utiliser aussi le féminisme, mais contre Violette Maurice.
Certes, l'avocate Yvonne Netter est une féministe bien connue, progressiste, qui se rapproche même des féministes les plus radicales sur la question de la contraception. Elle, c'est une femme divorcée, très, très libre dans sa vie privée. Et donc c'est un petit peu étonnant de la rencontrer là, prenant la défense d'une position d'exclusion de la part de la Fédération sportive féminine de France. Mais voilà, elle souhaite là défendre la cause du sport féminin qui est en jeu à travers cette affaire. C'est toujours très fragile, le sport féminin, sa légitimité, les hésitations des parents à confier leurs filles, leurs adolescentes à des clubs sportifs féminins. On accuse toujours le sport de viriliser les femmes et de toutes sortes de maux. Le sport va rendre les femmes stériles, immariables, trop indépendantes, trop musclées, horribles, laides, etc. Donc il y a beaucoup de réticences. Et puis, on aborde une période plus conservatrice aussi, les années 30. Donc, le sport féminin doit être irréprochable pour pouvoir être défendu. Et Violette Maurice donne l'image d'un excès condamnable moralement, avec ce soupçon, ces rumeurs sur son homosexualité. Et puis sa manière d'être Alors, est-ce que sa manière d'être est réellement choquante? On sait que par ailleurs, Violette Maurice jouit d'une grande popularité. C'est une figure qui plaît, sa gouaille, son côté anticonformiste. Les Français sont pas tous conservateurs. On voit dans la presse qu'elle a quand même des articles très favorables qui admettent parfaitement que on puisse être excentrique, être hors genre, et même supprimer sa poitrine si c'est plus commode. Bon, ça fait jaser, mais ça entraîne pas forcément un discours de haine. Et donc, c'est très surprenant de voir Yvonne Néther et des féministes utiliser l'argument de l'interdiction du pantalon pour défendre la cause du sport féminin. Et je trouve que c'est un bon indice de ce qui est en train de basculer à ce moment-là, y compris dans les rangs des féministes, qui modèrent leur discours, qui sont dans l'ensemble moins radicales. Le discours féministe radical est de moins en moins audible dans cette période. Et puis, on retrouve toujours cette peur de la fluidité du genre, de la sexualité. Et Violette Maurice incarne ça.
Une femme comme la dame Maurice, dont par ailleurs l'honorabilité personnelle n'est pas ici en cause, qui par son habillement masculin, non toléré par l'usage, la hardiesse et la liberté de ses propos, l'affectation d'indépendance, la mutilation volontaire qu'elle s'est infligée, s'ingénie à répudier le sexe auquel elle appartient, pour revêtir les apparences d'un autre dont la loi naturelle l'écarte à jamais.
Après le verdict, quand on sait donc que Violette Maurice a perdu son procès, n'obtiendra pas de dédommagement après son licenciement de la Fédération française de sport féminin, le Petit Journal écrit en avril 1930 que Madame Violette Maurice aura bénéficié pendant ses jours de fête du droit de se costumer à sa guise. La voici rentrée dans l'ordre, c'est-à-dire dans la toilette féminine accoutumée, expiatoirement saupoudrée d'une pincée de cendre. C'est intéressant qu'ils disent « la voilà rentrée dans l'ordre ». Donc l'ordre, c'est vraiment l'ordre des sexes.
Il faut bien saisir la date du procès, 1930. On est déjà dans ce moment de bascule après les années folles, vers une période plus conservatrice, où on cherche à restaurer l'ordre moral. Et finalement, Violette Maurice est peut-être une des premières victimes de ce retour à l'ordre moral dès les années 30. Elle ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer à l'issue du procès.
Si vous voulez, ce procès, c'est comme si on l'a tué symboliquement. C'est-à-dire qu'on l'empêchait de prouver sa valeur. Et comme c'est une femme qui, toute sa vie, a voulu... Elle avait l'esprit de compétition. Elle était vraiment... Ça, il y a le grand-père derrière, quand même, qui va conquérir l'Algérie, contre Abdelkader. On le voit très bien monter sur un cheval, en train de mater Abdelkader, le grand Abdelkader. Donc Violette, elle avait hérité de cet esprit de conquête. Elle s'arroge un pouvoir qui est détenu par les hommes et qui n'est pas du tout à la disposition des femmes. C'est une question de pouvoir. La femme qui s'identifie au masculin est insupportable.
Mais moi, j'aimerais vraiment pouvoir abandonner mon moulinès, devenir unisexe. Pour savoir marcher, fumer toute la journée, marcher tout en sifflant, porter des pantalons. Un ange de vie, je suis comme un garçon. Je porte un gros blouson de cuir, un ceinturon. Mais faut pas me pencher quand je sors ma Harley. À celui qui m'approche, je lui fous une.
à commandement FFI, MEU, de Londres, état-major. Abattre immédiatement et par tout moyen espionne Violette Maurice. Stop. Rechercher et éliminer agent contact avec elle, région M1, M2, M4. Stop. Ordre prioritaire. Fin.
C'est-à-dire, moi, je suis née à 20 km de l'endroit où elle a été tuée. Et quand j'étais enfant, j'ai entendu plusieurs fois ma mère qui racontait la disparition des charcuteries de Beuzeville. Ils avaient disparu corps et biens. Et alors, ça avait tellement frappé tout le monde. Enfin, ça avait traumatisé le pays. Mais ce que je ne savais pas et que j'ai découvert en faisant des recherches sur les fusillés de la prison de Caen, le 6 juin 44, c'est que la personne qui conduisait la voiture, c'était Violette Maurice. Voilà, ça a été publié l'année dernière. C'est donc la secrétaire du maquis Surcouf, donc Simone Sauter, puce. Elle a écrit donc le journal. Aujourd'hui encore, un autre règlement de compte doit s'effectuer. Depuis longtemps, la population de Beuzeville réclame châtiment des traîtres, Bailleul et Baudouin. Bailleul ravitaille l'armée allemande. Très souvent, de grands festins sont donnés à sa table aux officiers et fêles de gendarmes. Plus loin, elle dit, dès le petit jour, l'équipe qui se chargera de cette opération est partie tendre un guet-apens à Madame et Monsieur Bailleul. Ne doivent-ils pas se rendre à Paris avec un certain Monsieur André, dont la puissante voiture a été signalée ainsi ? Traction avant, 15 chevaux, 6 phares, antenne de poste de radio. Oui, c'est fascinant une voiture pareille hein, à cette époque-là. Quelques pages plus loin, imaginez un peu notre stupeur, puis notre joie, lorsque le soir, compulsant les papiers des serviettes, nous avons constaté que Monsieur André, l'intime des Bailleul, ce gros homme à la mine vulgaire qui conduisait la voiture attaquée, ce n'était ni plus ni moins que Violette Maurice, la célèbre championne des courses automobiles, sportive d'une force herculéenne qui s'était fait couper les seins pour manier plus facilement le volant. Et elle poursuit. Autrefois membre du deuxième bureau français, elle était devenue un principal agent de la Gestapo. Ses victimes ne se comptent pas dans notre pays où elle jouissait de tous les privilèges du régime. Sadique, elle torturait elle-même les patriotes qu'elle faisait arrêter. Et le récit de cet attentat fait par Puce est quand même très intéressant parce que là, pour moi, c'est la preuve définitive que l'attentat n'était pas dirigé contre Violette Maurice. Et qu'en plus, quand M. Ruffin s'est permis de montrer le télégramme qui avait été envoyé à Londres pour ordonner l'exécution de Violette Maurice, c'est un faux.
Donc à abattre par tous les moyens.
C'est un faux.
26 avril 1944, sur une route de campagne non loin de Lioré dans l'Eure, Violette Maurice est au volant de sa Citroën traction avant. Elle conduit à Paris les époux Bailleul, charcutiers à Beuzeville et leurs deux enfants. Un peu avant 19h, le convoi est ralenti par un attelage, le maquis normand de Surcouf. Les gars de Robert Leblanc criblent de balles les corps de ses occupants, enfants de 14 et 15 ans compris. Pour Raymond Ruffin, auteur de la première biographie consacrée à Violette Maurice, La Diablesse, parue en 1986, il ne fait aucun doute que Violette Maurice espionne pour les nazis, hyène de la Gestapo, selon l'expression qu'il emprunte à l'écrivain Auguste Le Breton, est visée. Les objets retrouvés sur elle en attesteraient, des listes dénonçant nominativement des résistants. Si des zones d'ombre et des silences persistent encore, on sait désormais que cette thèse relève plus du mythe que de la réalité. Elle ne supporte pas les preuves des faits rapportés depuis par des résistants. Pas de liste de noms, pas de faits de torture non plus dans les archives dépouillées par l'historienne Marie-Jo Bonnet. Ce que l'on sait, c'est que Violette Maurice est une proche de Marcel Bucard, homosexuelle également et chef du parti franciste. Elle le reçoit plusieurs fois sur sa péniche à Neuilly, telle que rapportée par ses domestiques. Nulle trace toutefois d'une quelconque adhésion au parti. On sait aussi qu'elle réquisitionnera l'essence de résistants à Cannes, conduira des miliciens et collaborera au moins économiquement. Un mystère entoure toutefois le fait que ses agissements aient pu dicter, avant la libération, l'impérieuse nécessité d'abattre par tous les moyens la Maurice.
Mais c'est quand même Raymond Ruffin qui est l'artisan de, ce, de cette histoire de la gestapiste tortionnaire. Il y a même un récit, c'est incroyable, mais enfin, il raconte une séance de torture dans son livre sur la diablesse. Enfin, c'est quand même inouï, comme s'il y était.
Marie-Jo Bonnet, historienne.
Donc c'est vraiment de la manipulation historique, mais qui est vraiment... parce que le but, c'était de justifier la mort des enfants. Donc, pour justifier la mort d'enfant, eh bien, il fallait que Violette Maurice soit vraiment l'épouvantail, la diablesse, comme il a dit.
La hyène.
Donc, on l'a noircie, mais vraiment de manière, moi, que j'estime odieuse, parce que c'est pas comme ça qu'on écrit l'histoire.
Marie-Jo Bonnet a raison quand elle pose la seule vraie question historienne, si vous voulez, pour moi, à quel moment on commence à voir Violette Maurice comme un monstre.
Anne Simonin, historienne.
C'est pas n'importe quand. C'est après l'attentat dans lequel elle va perdre la vie et avec elle deux enfants. Et il va falloir justifier ce qui s'appelle une bavure. Parce que jamais on peut tuer délibérément deux enfants. Et donc, à partir du moment où il y a bavure, il y a effectivement un narratif qui doit être produit. Et il faut absolument que cette femme soit absolument atroce pour justifier. Et ça me paraît pour le coup assez cohérent. Qu'Auguste Le Breton l'ait qualifié de hyène de la Gestapo et qu'on s'appuie là-dessus pour dire qu'elle s'est comportée n'importe comment ou avec une violence extrême, me paraît pas du tout de l'ordre de la preuve, c'est de l'ordre de la rumeur. Et ce qu'on voit, en tout cas, par exemple en Indignité nationale, c'est que la rumeur et la fausse nouvelle, pour reprendre un titre de Marc Bloch, a une importance essentielle sous l'occupation. Donc il suffit d'être vu dans des endroits avec des Allemands, ça crée un ressentiment. Vous êtes dans une économie de pénurie avec des contraintes extrêmement fortes. Et donc à partir du moment où vous pouvez transgresser parce que vous avez accès à la fois au marché noir, que vous êtes vu dans des boîtes de nuit à la mode, on a vraiment l'impression que par rapport à la souffrance physique, mentale, réelle de la plupart des Français, c'est un scandale absolu.
Et il y a d'autres éléments aussi qui m'ont permis de vraiment de critiquer le livre de Monsieur Ruffin, c'est que il y a beaucoup de faits qui se sont passés sous l'occupation qu'il ne connaissait pas, et même avant l'occupation. Par exemple, il ne savait pas qu'elle était l'amie de Jean Cocteau et Jean Marais, que Cocteau avait écrit sa pièce Les Monstres Sacrés sur la péniche de Violette Maurice. Elle l'avait hébergée. Il ne savait pas qu'elle avait conduit en voiture pour aller voir Marais sur le front au moment de la drôle de guerre. Il ne savait pas qu'elle avait dirigé le garage Pershing, réquisitionné par la Luftwaffe dans le 16e arrondissement. Et la Luftwaffe, donc finalement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout étonnant qu'elle se retrouve à fréquenter les aviateurs allemands, parce que son rêve, c'était d'apprendre à piloter un avion. Et j'ai retrouvé un article de 1938 où elle dit, eh bien voilà, je vais piloter, je vais faire le tour du monde en avion et je vais aller aux États-Unis faire des conférences sur le sport féminin. Et toutes les personnes qu'elle fréquente sous l'occupation, ce sont des aviateurs. Par exemple, elle va être embauchée comme chauffeur de Sarton-du-Jonchée. Sarton-du-Jonchée qui fait partie du gouvernement de Laval. Or, Sarton-du-Jonchée est un aviateur, un ancien aviateur. Ça, je les ai retrouvés aux Archives nationales, parce que ça montre qu'il n'avait pas fait de recherche non plus. C'est marqué que c'est pour le lieutenant colonel du Jonchée et pour la propriétaire, c'est Madame Violette Maurice qui est donc garagiste et qui est domiciliée à La Mouette, donc sur la péniche. Là, j'ai 44, vous voyez, j'ai des tampons. Et c'est des autorisations qui sont tamponnées, hein, c'est la même voiture, hein, autorisation de circuler. Vous voyez, là c'est 43, décembre 43. Autre fait que j'ai découvert en faisant mes recherches sur Violette Maurice, c'est que sa grand-mère était une juive de Constantine. Et ça, c'est extraordinaire parce que Ben Crolla, et elle a été enlevée par son grand-père, le général Maurice. Donc, c'est une famille très connue à Alger. La générale Maurice, elle faisait régner la terreur dans les familles d'officiers français. Et vous avez Sarton du Jonchet, qui est aussi une famille de militaires à Alger. J'ai retrouvé aux archives de Vincennes, dans le dossier de Maurice, du général Maurice, un courrier échangé avec les deux familles, Sarton du Jonchet et Maurice. Et comme il était général, son père était aussi un militaire, mais beaucoup moins doué que le grand-père. L'oncle était général aussi. Et donc, c'est absolument pas étonnant qu'on la retrouve à Vichy, chez Pétain. Moi, une de mes hypothèses, mais ça, j'ai pas encore réussi à la prouver, sauf que j'ai trouvé quand même un document de Payol, qui faisait partie des services secrets de Pétain, c'est que Pétain lui aurait demandé des infos sur les milieux allemands. Parce qu'il en avait besoin pour négocier avec les Anglais. Puisqu'elle fréquentait les aviateurs de la Luftwaffe. Parce que quand même, accepter de diriger le garage Pershing réquisitionné par la Luftwaffe, faut vraiment être à côté de ses pompes. Hein.
Donc cette femme qui a eu des relations au moins commerciales avec les Allemands pendant la guerre, et où, parce qu'elle tenait un garage, parce que les gens de la Gestapo venaient s'approvisionner en pièces détachées. Si vous voulez, il y a ces frôlements et qui font que pendant la guerre, ça reste des choses qui sont quelque chose de très difficilement admissible. Va être l'objet, et c'est là où je trouve la démarche de Marie-Jo Bonnet très intéressante, à partir de la Libération, d'un récit qui est totalement fantasmé. Et donc, c'est pareil. C'est-à-dire que, en tout cas, si on suit Marie-Jo Bonnet, il n'y a pas de trace de son appartenance à la Gestapo. Il n'y a pas de trace historique de son rapport à l'espionnage. Et quand on lit les descriptions qui sont faites des tortures qu'elle aurait soi-disant infligées aux gens arrêtés par la bande, ce qu'on appelle la bande de Bonnier-Lafont, la bande de la rue Lauriston, bah, écoutez, c'est du mauvais SAD. Mais on a un peu de mal à imaginer que ça ait pu être réel. Elle est très inventive dans ses tortures, en tout cas dans l'imaginaire des tortures qu'on lui prête, et elle dévoile une puissance de ce féminin devenu masculin qui est quelque chose d'extrêmement inquiétant, et la violence des fantasmes, des tortures qu'on lui prête, à mon avis, traduit, fait partie de ce que certains historiens considèrent comme étant la crise de la masculinité la Libération, mais aussi de l'autonomie qu'elle a fondamentalement gagnée comme agent politique autonome. C'est pour ça que c'est un apax, Violette Maurice, parce que la plupart des femmes dans la collaboration ne sont pas du tout traitées de cette façon-là. Dans la mémoire nationale, c'est resté, ce sont les femmes tondues qui restent des symboles des femmes pendant la collaboration, ou la dénonciatrice. Voilà, donc on a deux figures qui sont, donc c'est-à-dire la femme ayant eu des relations sexuelles avec les Allemands, ou celle qui a dénoncé, qui passait son temps dans sa cuisine, à envoyer des lettres à la commandantour, à aller le dire à la commandantour, pour reprendre le titre d'un poème de Robert Desnos qui est juste magnifique. Voilà, il y a ces deux femmes-là, alors que la réalité des femmes est une réalité autrement politique et autrement subversive aussi, dans la mesure où je pense que la collaboration a été pour les femmes un moment essentiel de leur socialisation aux politiques.
Voilà, donc, et je tape Violette Maurice Gestapo. Voilà, cette photo-là, tout le monde s'en sert pour dire « Regardez la preuve qu'elle était à la Gestapo ». Eh bien, figurez-vous que cette photo, elle ne date pas de l'occupation. Moi, j'ai retrouvé où est-ce qu'elle a été prise. Cette photo, elle est prise en 38, au fameux commissariat de Neuilly, là où elle était arrêtée, après la mort du légionnaire. Vous voyez ?
Donc on fait croire que cette photo...
Que c'est elle est à la Gestapo de la rue des Saussets. Et j'ai le journal dans lequel elle a été publiée. C'est de la manipulation historique, de la diffamation. Vous avez tous les gens qui le croient et qui le reprennent cette photo en disant « Regardez, elle était à la Gestapo ».
Là, vous nous sortez le gros parchemin.
J'ai eu la chance de retrouver... Ah, détective, voilà.
Décembre 1937. Paris soir, Violette Maurice tire 4 balles de revolver à bord d'une péniche.
Voilà, vous voyez ?
Le journal. Violette Maurice, la femme en homme, tue un légionnaire qui la menaçait. Paris soir. J'étais en état de légitime défense, affirme Violette Maurice. Violette Maurice blesse mortellement un ancien légionnaire au cours d'une querelle.
Elle abat un légionnaire.
Sur sa péniche, la mouette. Donc il y a un autre procès.
Le populaire. Le drame de la péniche. Violette Maurice est écrouée à la petite roquette. Paris soir, Violette Maurice, libérée depuis hier soir, va débuter comme ténor et artiste de cinéma.
Ah oui, mais attention, c'est pas n'importe qui qu'elle a tué. C'est l'amant de la femme de son meilleur ami. Ils ont passé le réveillon de Noël ensemble. Ils en sont venus à discuter très fort. Donc elle a pris fait et cause pour lui. Et lui, oui, il a la bouteille à la main. Le lendemain, il est venu sur la péniche, menaçant et tout ça. Elle a sorti son revolver et puis elle l'a tué. Donc il y a eu un non-lieu, légitime défense. Vous voyez ça, c'est la péniche, c'est là. La mouette. Et là, vous voyez, c'est une femme qui est déjà triste. Hein. Vous voyez sa tête.
Les clopes au bec, constamment.
À bord de la mouette. Jeannot bien-aimé. C'était encore comme un beau rêve ton passage dans la petite cabine, et en me réveillant, je n'y croyais pas. Yvonne m'a expliqué l'air sombre de Violette. C'était un air de maîtresse de maison prise au dépourvu. Elle était consternée, furieuse de ne pouvoir t'offrir un festin. Nous lui avons expliqué que tu t'en moquais, que tu venais nous voir et nous manger. Ce qui la console un peu. Mais c'est une grosse petite fille, ou un gros petit garçon, très drôle, qui boude et qui a des idées. Jean Cocteau, lettre à Jean Marais.
À mon avis, c'est elle qui a financé la pièce de Cocteau. Parce qu'elle était très généreuse.
Les monstres sacrés.
Oui.
D'ailleurs, la première représentation, elle joue.
On la voit en photo avec son amante, Yvonne Debray. Parce que ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'elle avait une liaison avec Yvonne Debray.
Elles vivaient ensemble sur cette péniche, la mouette, donc qui était
exactement
à Neuilly.
C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une image de leur relation par Cocteau. Parce que lui, il était avec Jean Marais à cette époque-là. Et donc, il écrivait tous les jours, même deux fois par jour, à Jean Marais, qui était mobilisé donc dans la Somme. Et il racontait un peu ce qu'il vivait. Et Jean Marais venait de temps en temps sur la mouette pour retrouver Cocteau. Et donc, il y avait deux couples homosexuels. Et il raconte qu'en fait, Violette, malgré ses allures de gros garçon, comme il dit Pato, en fait, elle reste une femme parce qu'elle est très sentimentale, elle est jalouse, elle fait des scènes à Yvonne parce qu'elle a toujours peur de ne pas être assez aimée. Et il dit à Jean Marais, ce n'est pas comme nous. Nous, on se laisse la liberté. Mais c'est intéressant, vous voyez, de voir son regard de couple homosexuel sur un autre couple homosexuel.
Jeannot chéri, drame de dame. Ce soir, je rentre de chez Fenosa et Violette trouve une lettre d'Yvonne. Elle m'avait du reste vaguement prévenu qu'elle ferait une fugue exprès. Yvonne se cache. Ou Violette la cherche. Bref, encore une fois, tu voyais juste. Et cet homme de Violette est une femme type avec tout ce que cela représente de compliqué, de saine. Ce qui ne l'empêche pas d'être un très chic type, et très bonne, et très brave. Mais elle veut jouer l'homme.
Et ni le sport ni l'ablation des seins ne nous changent de sexe. Ce n'est pas grave, car Yvonne m'avait dit « Je partirai un jour ou deux pour que Violette se rende compte. » Hélas, je crois que cela ne transforme pas les caractères. C'est embêtant pour moi de me trouver au milieu d'une histoire de ce genre et de ne savoir que faire. Si je pars, j'embrouille les cartes. Si je reste, j'ai l'air de m'implanter.
Je cueille mon amante.
Je te tiendrai au courant de la suite. Aime-moi comme je t'aime. Jean Cocteau, lettre à Jean Marais.
On a des photos là où elle est devant son piano et devant la partition. C'est la deuxième partie de sa vie, ça, artiste lyrique. Et c'est celle où on a le moins d'informations.
Milieu des années 30. C'est l'époque des orchestres féminins et des cabarets lesbiens. Violette Maurice aurait fréquenté assidûment le fameux Monocle, boulevard Edgar Quinet. La presse évoque alors plutôt qu'elle se produit au Poulailler, un autre cabaret parisien. Et des concerts radiophoniques, musique légère avec Violette Maurice, sur Radio Paris, sans que l'on ne soit parvenu à retrouver d'enregistrement.
Je suis une grande collectionneuse de partitions. Je cherche toutes les partitions où il y a eu de chanteuses lesbiennes. Et donc c'est pour ça que je fouillasse tout le temps dans les dossiers de partition.
Catherine Gonard, journaliste.
Et comme par hasard, je tombe sur cette partition sur Violette Maurice, qui ne correspond pas à celle que je cherche. Mais le fait que ce soit Violette Maurice, dont je ne me souvenais absolument pas qu'elle ait eu un parcours de chanteuse, je l'ai pris évidemment tout de suite. Et puis ce qui m'a aussi complètement surpris, c'est que la chanson qui s'appelle Gisèle, fleur d'amour, elle est dédicacée à quand même Gisèle de Rieux. Alors là, je me suis dit, c'est incroyable, je pense que c'est la seule partition que je connaisse, que j'ai vue depuis des années, où la dédicace est clairement à une femme. D'une femme à une femme. Alors elle est connue simplement pour avoir été une des amantes d'Arletty.
Lorsque tu viens comme un oiseau frileux, te blottis entre mes bras amoureux, sur ta lèvre frémissante, dévote.
Toi que je rêve chaque nuit et j'en rêve encore lorsque le jour luit, car ton image me hante, ton souvenir me poursuit et m'enchante, mon seul amour c'est toi toujours. C'est très... c'est pas du tout ambigu. J'aime bien la fin aussi. Peut-être un jour, hélas, tu t'en iras, peut-être aussi que tu me trahiras, j'en garderai ma chérie, un désespoir qui brisera ma vie si tu partais, moi j'en mourrai. Et je trouve que ça, alors là, c'est pour le coup, c'est... Il y en a très très peu qui osent chanter ce genre de choses. Hein. Mais bon, Suzy Solidor a quand même notamment une de ses chansons qui dit « Je peux pas voir une femme sans penser à l'amour ». C'est assez clair aussi.
Ça dit quelque chose du personnage. En tout cas, Violette Maurice, elle est ouvertement lesbienne.
Ah oui, ça dit essentiellement ça.
Quand tu passes, l'air est plus en... Ton charme et ta beauté
Et là, là, c'est avec Joséphine Baker. Mais ça, je ne sais pas quelle est la nature de leur relation.
Ah ben, on leur prête une
aventure.
Ah
oui, mais ça... Oui, moi, je n'étais pas dans le lit. Hein. Elle a tellement été un support de fantasmes masculins, que ce soit du côté de le tortionnaire ou du côté des amours féminines, que vous savez, il faut quand même... moi, je n'aime pas ça. C'est même assez scandaleux. C'est, ça devient du voyeurisme. Ben, de toute façon, les hommes ont toujours été attirés par les lesbiennes. Ça, c'est sûr. Hein, y a un voyeurisme qui est absolument évident. Alors, quand vous rajoutez à ça qu'elle s'habille en homme, qu'elle se coupe les seins, qu'elle fréquente les Allemands sous l'occupation, qu'elle est tuée par le maquis Surcouf, alors, vous voyez, là, c'est extraordinaire. Parce que vous avez tous les ingrédients pour en faire un objet de haine. On a beau leur mettre les preuves sous le nez, ils n'en veulent pas. Ils préfèrent la légende, ils préfèrent la... C'est ça, moi, c'est ça qui me motive à faire mes recherches. Parce que quand vous avez construit une légende, eh bien, vous ne pouvez pas la dégommer avec des faits historiques. La puissance de l'imaginaire.
C'était le beau temps des violettes, des violaines et des violettas. Missy toujours aimait Colette et Violette aimait Vita.
C'était le cas Violette Maurice.
D'autres violettes le dimanche.
Avec Marie-Jo Bonnet, Anne Simonin et Catherine Gonin. Philippe Tétard et Christine Bass. Lecture, Samuel Glomé. Gisèle Fleur d'Amour, chant et piano, interprété par Camille Martin.
Et des violettes expéditives qui n'avaient pas d'autre dessein que d'être les rois des sportives se faisaient amputer des seins. Qu'on leur permette col dur et gourmette la rose ou le ring.
Prise de son, Georges Thau et Nicolas Delmas. Mixage, Philippe Mercher. Coordination, Christine Bernard. Stagiaire, Lily Cornaer. Un documentaire de Clément Salzar réalisé par Christine Robert.
Ah, qu'on leur permette col dur et gourmette la rose ou le ring. Gourmet et smoking, l'ombre ou bien le socle, smoking et monocle, le pur sous l'impur, monocle et col dur.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve dimanche prochain, nous grimperons des cols en danseuse, mais c'est une autre histoire.